Nyanga.
Eric Kouimana sur la mise en onde, bienvenue à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. 10 cas de choléra déjà signalés parmi les réfugiés congolais provisoirement installés en commune Rumonge de la province Burunga. Et 7 personnes sont déjà mortes, parmi lesquelles des victimes du manque d'eau vivre. Des femmes et jeunes vivant au camp de transit des réfugiés congolais de Tshishimere en commune Tibitoke de la province Bujumbura disent mener une vie très difficile. Ils se basent sur le peu de nourriture, de latrines et des difficultés d'accès à l'eau potable. Divergences d'opinion chez certains responsables d'établissements scolaires ainsi que les enseignants de la direction provinciale et de l'éducation de Burunga par rapport à la décision d'interdire la cérémonie de remise des certificats aux écoles dont le taux de réussite à l'examen d'État n'atteint pas le seuil minimal de 15%. Et dans la chronique sportive de ce lundi, on revient sur tout ce dont les clubs de football doivent avoir pour accéder au championnat de football en première division. Bienvenue à cette actualité.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Ouvrons ce journal par la page humanitaire. 10 cas de choléra déjà signalés parmi les réfugiés congolais provisoires installés en commune Rumonge de la province Burunga et 7 morts parmi lesquels des victimes du manque de vivres. Une réunion urgente tenue par l'administrateur communal de Rumonge l'après-midi de ce lundi trouve que le mieux serait de les transférer dans les plus brefs délais vers un camp de réfugiés pour stopper la propagation de cette épidémie à Rumonge, une information que nous devons à notre correspondant sur place, Jean-Pierre Misago. Cela étant, les réfugiés congolais provisoirement installés en commune Rumonge de la province Burunga ne devraient pas céder au désespoir face aux mauvaises conditions de vie qui finiront par changer. Cet appel est de Monseigneur Salvatore Nichiterete, évêque du diocèse catholique de Bururi ce dimanche, alors qu'il distribuait à ces Congolais de l'aide en vivre et non vivre collecté dans sous-diocèse. Cet évêque appelle les autres hommes charitables à venir en aide à ces réfugiés congolais vivant dans de très mauvaises conditions. Certains parmi ceux ayant reçu cette aide s'en réjouissent, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako?
Plus de 8 tonnes constituées de riz, de farine, de manioc et de maïs, du haricot, d'huile de palme, du sel de cuisine, des savons, mais aussi 2 260 000 francs burundais pour aider les malades sur le lit d'hôpital. Telle est l'aide remise aux réfugiés congolais provisoirement installés dans la ville de Rumonge et au site de transit de Makombe par Monseigneur Salvatore Nichiterete, évêque du diocèse catholique de Bururi. Il s'agit d'une aide collectée dans différentes paroisses de ce diocèse et c'est une action qui se poursuivra selon cet évêque du diocèse catholique de Bururi. Après avoir visité ces réfugiés en manque de vivres, d'eau potable, de latrines, mais aussi d'abri, à ces réfugiés congolais, Monseigneur Salvatore Nichiterete appelle à garder espoir car un jour ils pourront recouvrer les conditions de vie normales, rappelant de par le passé que certaines personnalités ont passé dans de durs moments mais sont devenus par après des leaders reconnus à l'échelle mondiale. Cet évêque a appelé les autres âmes charitables à venir en appui à ces réfugiés congolais. Les bénéficiaires de cette aide ont salué ce geste humanitaire, estimant d'ailleurs que les Congolais et les Burundais sont des frères. Ce dimanche, le stade de football de la commune Rumonge s'aérait progressivement avec les transferts de ces réfugiés congolais vers le camp de Busuma à Rugiki en cours. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Merci à Jean-Pierre Misago. Dans cette même page humanitaire, quittons Rumonge pour Chibitoke, où des femmes et jeunes vivant au camp de transit de réfugiés congolais de Tshishimere de la province Bujumbura disent mener une vie très difficile. Ils se basent sur le peu de nourriture, de latrines et des difficultés d'accès à l'eau potable. Ils demandent ainsi qu'ils soient relocalisés dans des camps appropriés au sein de l'administration communale. L'on confirme en général les mauvaises conditions de vie de ces réfugiés. Selon Pamphile Mabansi, expert en droit d'asile et de réfugiés, des textes régissant les réfugiés ne définissent pas clairement les groupes spécifiques des réfugiés, notamment les femmes et les enfants. Les détails avec Mérika Yang.
Nous sommes mardi 16 décembre de cette année. On entre dans le site de transit de Tshishimere, un des sites qui a accueilli des réfugiés congolais. L'on voit des tentes, des femmes et des enfants, des foyers de la fumée, des hommes formant un groupe, ils échangent. Des vieux et vieilles se reposent dans ces tentes près des seaux, des ustensiles de cuisine, des habits et d'autres articles. Nilaneza Consolé, 20 ans, est mère d'un enfant, mais séparée d'elle quand ils ont fui, et fait savoir que la vie dans ce site de transit est difficile, précisément en ce qui est des lieux d'aisance. Toumaini est mère de 6 enfants, nous la rencontrons en train d'éplucher de la banane et témoigne qu'elles ont des difficultés d'avoir de l'eau potable, en fait troublant, dit-elle, lors des menstruations.
Mai, pourquoi ça t'a pas d'aïpata?
Il n'y a pas assez d'eau parce que les gens sont très nombreux. Pour aller à la douche, nous faisons la queue. Certains passent devant les autres. La distribution des serviettes hygiéniques a commencé aujourd'hui. On donne seulement aux jeunes filles et les femmes enceintes. Nous autres, non.
De son côté, Fidèle Serugabire, un jeune de 29 ans, demande qu'il soit relocalisé dans des camps de réfugiés parce que là, au moins, ajoute-t-il, l'on peut faire une activité génératrice de revenus. Une situation des réfugiés délicate, confirme Jacques Hagabimana, conseiller juridique de l'administrateur de la commune Chibitoke. Différents textes internationaux protègent les réfugiés, des textes néanmoins non précis sur les groupes spécifiques de réfugiés, tels les femmes et enfants, selon Pamphile Mabansi, expert en droit d'asile et des réfugiés.
La première desquelles se trouve la Convention de Genève de 1951 portant statut des réfugiés, le protocole de New York de 1967 ainsi que la convention de l'OIA de 1969 régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique. Ces trois textes doivent être considérés comme formant un tout. La convention de l'OIA elle-même constitue une réponse humanitaire au caractère individuel et massif des problèmes des réfugiés en Afrique. Ces différents textes se limitent à déterminer la définition du terme réfugié ainsi que les droits de ces réfugiés sans revenir sur certaines catégories spécifiques des réfugiés se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière dont les femmes, les enfants ainsi que les personnes handicapées.
Au 16 décembre de cette année, 7097 réfugiés congolais étaient dans ce site de transit de Tshishimere, un nombre qui a augmenté, passant à 7873 personnes au 21 décembre, selon les données de l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides, ONPRA.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Page éducation à présent, certains responsables d'établissements scolaires ainsi que des enseignants relevant de la direction provinciale de l'éducation de Burunga affichent des avis divergents sur la décision d'interdire interdisant la cérémonie de remise des certificats aux écoles dont le taux de réussite à l'examen d'État n'atteint pas le seuil minimal de 15%. Pour les uns, cette mesure vise à inciter les écoles à redoubler d'efforts afin d'améliorer leurs performances, alors que les autres trouvent qu'elles risquent de démotiver les élèves. De son côté, le directeur provincial de l'éducation de Burunga précise que l'objectif de cette décision est d'amener toutes les écoles publiques, tant publiques que privées, à enregistrer un taux de réussite plus élevé à l'examen d'État. Le docteur avec Clovis Niyonkuru.
Les écoles publiques comme privées n'ayant pas atteint un taux de réussite d'au moins 15% à l'examen d'État ne sont pas autorisées à organiser la cérémonie de remise des diplômes. Cette mesure est en vigueur au sein de la direction provinciale de l'éducation de Burunga. La décision suscite des réactions divergentes parmi les responsables d'établissements scolaires et les enseignants. Frère André Nina Azoué, directeur du lycée Saint-Pierre de Makamba, estime que cette mesure est pertinente dans la mesure où elle pousse les écoles à redoubler d'efforts pour améliorer leurs performances académiques.
Je dirais que c'est une façon de motiver le travail. Parce que ce n'est pas heureux de travailler toute l'année et avoir zéro réussite. Pour une école qui a été touchée par cette malheureuse situation, c'était malheureux. Alors, la mesure de la province, je pense que c'est pour essayer d'éveiller l'attention, la conscience des éducateurs, des parents, des enfants, et pour qu'ils redoublent d'efforts pour avoir au moins la moyenne, le taux de réussite qu'ils ont été, et même plus. Je crois que c'est dans le contexte d'encourager ou de motiver donc tous les partenaires éducatifs à travailler pour avoir un taux de réussite qui est un peu plus élevé.
Un avis que ne partage pas Alfred Kamana, enseignant au lycée Komibou. Selon lui, priver les finalistes de la cérémonie de remise des diplômes a un effet démotivant sur les élèves de classes inférieures qui perdent une source d'encouragement et de projection.
Ce cas d'interdire la célébration, nous ne trouvons pas le pourquoi, parce que ça conforte les élèves et montre que les élèves des finalistes, quand ils célèbrent, les cadets ont le désir d'atteindre là où ils se trouvent les finalistes et sont motivés en fait.
De son côté, Elias Ndekoumana, directeur provincial de l'éducation et de l'enseignement à Burunga, précise que l'objectif principal de cette mesure est d'amener toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, à s'engager davantage pour la réussite à l'examen d'État.
Toute école publique ou privée n'ayant pas atteint un taux de réussite de 15% à l'examen d'État ne pourra pas organiser une cérémonie officielle de remise des diplômes. Dans ce cas, les diplômes seront remis de la même manière que les bulletins scolaires. L'avantage de cette mesure est qu'elle incitera les écoles concernées à se remettre en question, surtout lorsqu'elles constateront que d'autres établissements ont célébré les lauréats. Cette situation poussera les enseignants à redoubler d'efforts afin d'atteindre l'année suivante le pourcentage de réussite exigé.
Cette décision qui interdit aux établissements n'ayant pas atteint le seuil de 15% de réussite à l'examen d'État d'organiser la remise des diplômes avait été initiée par Nimae Semo, ancien directeur provincial de l'éducation dans l'ex-province de Makamba.
Clovis Niyonguru place à la société certains usagers du boulevard Mwedi Gisabo affirment qu'ils ont des difficultés pour traverser ce boulevard lorsqu'ils empruntent le tronçon Roi Khaled et Pont Nahangwa à cause des fleurs et arbustes qui s'y trouvent. Tous piétons et chauffeurs demandent que ces arbustes soient coupés à temps pour éviter des accidents. Le point avec Sheila Irambona.
Ces personnes sont des habitants du nord de la capitale de Bujumbura qui empruntent souvent le boulevard Mwedi Gisabo, un boulevard qui a été embelli par des fleurs et des arbustes depuis l'hôpital Roi Khaled jusqu'au pont Nahangwa. Ces personnes disent craindre pour leur sécurité, à l'instar de ce piéton qui témoigne que chaque fois que ces arbres augmentent de taille, il risque de se faire écraser lorsqu'il veut traverser ce boulevard pour aller vers la zone Guihosha ou dans la zone Nyakabiga.
Il nous est difficile de traverser alors que ces fleurs et arbustes augmentent de taille. Tu peux avoir un accident faute d'avoir remarqué une voiture.
Ces conducteurs de voitures disent que même en voiture, traverser est un véritable travail de titan.
Hier, une voiture a voulu traverser. Je ne sais pas si elle a eu un accident parce que ses freins et arbustes n'ont pas été coupés. Mais moi, qui emprunte souvent cette route, je peux témoigner qu'il nous est difficile de traverser lorsque ces arbustes ont augmenté de taille.
Ces accidents se passent lorsque tu veux traverser et que tu n'as pas remarqué qu'il y a une voiture sur la route principale.
Tous demandent que ces fleurs et arbustes soient coupés à temps pour éviter des accidents.
On demande que ces arbustes et fleurs soient coupés à temps pour faciliter la circulation routière.
Ils peuvent les couper de telle sorte que cet endroit soit dégagé afin que la personne qui veut bifurquer voit l'autre qui est en train d'arriver.
Même si ces usagers de ce boulevard soulèvent ces inquiétudes, ils n'ont pas manqué de dire qu'ils trouvent que ces arbustes et fleurs embellissent cet endroit lorsqu'ils ont été coupés.
Merci à Sheila Iramboun. Les usagers de la route communément appelée Kanyoni, située dans la zone Chibitoke en commune urbaine de Nangwa, déplorent l'état des lieux de cette route devenue impraticable. Ceux qui utilisent cette route, que ce soit les conducteurs de taxi-moto ou ceux de taxi-vélo, tous demandent à la direction générale de l'ARB de tout faire pour que cette route soit réhabilitée, n'est-ce pas, Jean-Marie Mayonga?
En arrivant sur cette route à partir de la rivière Nyabagere, on y trouve des nids de poules jusqu'à l'endroit appelé Dorsale. Le passage de deux voitures n'est pas facile car chacune cherche à éviter ces nids de poules afin d'éviter des collisions. Les usagers signalent que ces nids de poules causent davantage de problèmes.
Lorsqu'il pleut, il devient difficile de travailler dans cette route. Il peut arriver qu'un véhicule projette de la boue sur les habits d'un client, ce qui provoque des disputes avec ses aussi. En ce qui concerne les nids de poules, lorsque nous transportons une personne de forte corpulence, ils endommagent nos vélos.
La route est très mauvaise parce qu'il y avait des trous dans le nid, parce qu'il n'avait pas de glissement. À propos de la route, il fallait que l'administration locale puisse se dédier pour préparer la route. Il fallait que le gouvernement fasse possible pour réparer.
L'un des 5 élus collinaires affirme que cette route est en mauvais état et qu'elle nécessite d'être réhabilitée.
À partir de Dorsale jusqu'au port de la rivière Nyabagere, la route est remplie de nids de poules, ce qui ne facilite pas le déplacement des véhicules, des motos et des vélos. Mais même les piétons rencontrent des difficultés lorsqu'il pleut, car les véhicules projettent de la boue sur les habits et continuent sans dire un mot.
Tous demandent au service chargé des routes de tout faire pour que cette route soit praticable.
Nous demandons au gouvernement de voir comment réhabiliter cette route afin que nos usagers puissent travailler dans de bonnes conditions. Ce sera une grande avancée pour nous.
La route appelée Kanyoni était autrefois goudronnée, mais aujourd'hui elle ressemble à une route qui n'a jamais été macadamisée.
Jean-Marie Mayonga, le responsable du journal Iwatu, Leandre Sikuyavuga et Abbas Mbazu Mutima ont été interpellés par le service national de renseignement le matin de ce lundi. Des sources proches d'Iwatu indiquent qu'ils ont été interrogés sur un article publié par Iwatu. Jusque dans l'après-midi de ce lundi, Léandre est directeur de publication et Abbas est son adjoint, également directeur en chef. Également rédacteur en chef était dans les locaux du service national de renseignement. Ces sources indiquent qu'ils sont pour le moment libres.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Un club évoluant en première division du championnat national de football, baptisé Premier League, doit obligatoirement disposer d'un terrain d'entraînement. Si le club n'en possède pas, il est tenu d'en louer un. De plus, il doit avoir un siège officiel où il exerce ses activités administratives. Étienne Manirakiza, responsable du département des licences des clubs au sein de la Fédération de football du Burundi, précise également qu'un club ne peut être autorisé à participer au championnat que s'ils disposent d'un médecin chargé de suivi sanitaire des joueurs. Chronique Sport avec Jean-Marie Vianney Nguedakoumane.
Une équipe qui évolue dans le championnat national de première division de football baptisé Primus League est tenue de disposer de terrain de jeu. Toutefois, étant donné qu'il n'est pas facile pour les équipes burundaises de posséder leurs propres stades, elles utilisent les stades nationaux généralement gérés par la Fédération burundaise de football FFB. Explication d'Etienne Manirakiza, responsable de licence des clubs au sein de la Fédération burundaise de football FFB.
Le club doit avoir un terrain qui répond aux exigences de la CAF et de la FIFA pour accueillir les matchs internationaux. Ici au Burundi, je dirais que nous n'avons pas un club qui a intérêt qui remplit les critères exigés par la CAF et la FIFA. Et on a un intérêt qui est le stade Inhuali.
Les équipes doivent également disposer de terrains d'entraînement. Ceux qui n'en ont pas sont obligés de louer ces terrains.
Autre chose qu'on vérifie, le club doit avoir intérêt d'entraînement. Si je peux citer un exemple du club Interstar qui a intérêt d'entraînement à l'école d'excellence d'Ongagala ex-Séné.
Le responsable du service chargé d'évaluer la conformité des clubs aux exigences de participation aux compétitions organisées par la FFB précise aussi que les équipes évoluant en première division doivent disposer d'un siège administratif.
Le club doit avoir un bureau. Ici, si un club n'a pas un bureau, doit louer un bureau. Et nous, en tant que gestionnaire de licence, nous devons vérifier que le club possède un contrat de location de son bureau.
Le club doit également avoir différents membres du personnel, dont un président ou un dirigeant du club, selon toujours Etienne Manirakiza.
Autre critère, le club doit avoir le personnel. Ici, on peut citer le secrétariat et puis le club doit avoir un responsable administratif.
À cela s'ajoute le responsable des finances ainsi qu'un médecin chargé de suivre de près l'état de santé des joueurs.
Le club aussi doit avoir un responsable finance parmi le personnel, y compris médecin, physiothérapeute.
Le responsable de licence des clubs au sein de la Fédération burundaise de football FFB indique en outre qu'une équipe doit disposer de plusieurs entraîneurs qualifiés titulaires de licence délivrés par la Confédération africaine de football CAF.
Entraîneur principal de l'équipe qui participe à la première division au niveau national doit avoir minimum une licence B CAF. Et puis son assistant doit avoir minimum une licence C CAF. Et puis autre, le club doit avoir un entraîneur de jeunes joueurs.
Il faut également un responsable de l'exploitation de plateformes en ligne conformément aux exigences de la CAF.
Parmi le personnel du club, il y a aussi le responsable de l'exploitation de la plateforme en ligne de la CAF pour l'octroi de licence au club qui est Club Licensing Online Platform en anglais. Aussi, le club doit répondre aux droits et obligations des membres du personnel, si je peux dire, et respecter les contrats, ce que le personnel a besoin.
Etienne Manirakiza précise en fait que pour être autorisé à participer au championnat national de football en première division, le club doit obligatoirement disposer de statut de club.
Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes.